Premier sujet ce matin, retour sur la transaction Bombardier-Alstom. Là, tu regardes ça plutôt du côté de l'angle de la caisse.
Oui, parce que, évidemment, hier, on a sorti une nouvelle comme quoi le prix de la transaction était moins élevé que le prix annoncé. Ça, c'est normal dans un processus de due diligence, dans un processus d'évaluation, d'évolution du temps. On voit que Bombardier a eu des problèmes de gestion de certains contrats. On a dévalué un peu la part, mais c'était du côté de la caisse. Bon, tu dis, OK, je vais avoir un peu moins que prévu pour mon investissement de 1,5 milliard, mais je vais avoir quand même plus que mon 1,5 milliard que j'avais investi. Donc, je fais du rendement. Deuxième point, j'avais protégé mon rendement parce que, à l'origine, puis je l'ai toujours dit, la caisse avait fait une bonne chose. Elle avait dit à Bombardier, c'est correct, je t'envoie 1,5 milliard de dollars US, mais si t'atteins pas les cibles, t'augmentes ma participation pour compenser. Si tu me rachètes, tu vas me donner un pourcentage de rendement garanti. Et dans le fond, il y avait des clauses pour geler un placement privé avec rendement relativement assuré, alors que le gouvernement, lui, était plus du genre « on est partenaire à la vie, à la mort » et ça a été à la mort. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que même si on a eu un montant moins élevé, on est actionnaire d'Alstom, et donc, au lieu d'être actionnaire dans un placement privé, on est partenaire dans un placement coté en bourse. Et donc, si tu veux liquider une partie de ta position, tu peux le faire n'importe quand, et si tu veux augmenter ta position, tu peux augmenter n'importe quand. Et t'es pas pris avec un partenaire comme Bombardier qui vacille. Là, t'es rendu avec un gros groupe mondial ferroviaire. Et ajoute avec ça que dans la consolidation de marché, t'as une meilleure position. Bon, maintenant, évidemment, c'est moins gros que ce qui est annoncé de quelques centaines de millions de dollars pour tous les partenaires. Mais disons que c'est Bombardier qui absorbe, 60-quelques % de la facture et la caisse 34,7, je pense, de mémoire. Donc, de la baisse par rapport à l'attente, si tu veux. Mais bon, présentement, ce qui est le fun, c'est de dire, on a fait du rendement à la caisse, maintenant, on a du placement dans Alstom, puis si on n'est plus content, on peut liquider nos actions éventuellement.
De jeunes héritiers assez riches, merci, proposent de payer plus de taxes, plus d'impôts.
Oui, et Paul, c'est une proposition qui vient de Ressources en mouvement. Okay. C'est des milléniaux qui disent au Canada, écoutez, là, nous, on est riches, on est hérité de fortune, on voudrait être plus imposé, puis voici nos solutions. Tu te souviens quand je te parlais de la classe ambitieuse? Ben, donner une partie de sa fortune, ça fait partie de la classe ambitieuse. Ça fait dire, je me sens utile, j'ai hérité d'une fortune, j'ai rien fait pour l'accomplir, je vis de ça, j'ai pas à m'inquiéter, on devrait en payer plus. Théoriquement, là, c'est super, parce que tu te dis, il y a des gens qui se disent, nos actifs sont tellement élevés que le système fiscal nous avantage. Parfait. Là où il y a un problème, c'est dans l'application. Par exemple, si tu dis « Ah, on va imposer une taxe ou un impôt sur les fortunes à l'héritage. » Le problème, c'est de dire « Ok, si c'est au moment de l'héritage, si je donne avant de mon vivant, pas en héritage, mais en don entre vifs, ça fait pas partie de l'héritage. » Donc, il y a tellement de façons de contourner ça que c'est une belle solution en théorie, mais en pratique, ça devient compliqué. L'autre point, c'est qu'ils disent « On va imposer les actifs. » Mais la maison comptera pas. Allez, deux minutes, là. Si la maison compte pas, on va commencer à avoir des maisons de 15 millions parce que le gain en capital n'est pas imposable sur les maisons. Et donc, tu proposes des choses d'un bord, mais de l'autre côté, tu te permets de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de contourner ça. Et il y a un professeur de fiscalité qui propose à la place d'augmenter l'impôt sur le gain en capital. Et là, Paul, ça, c'est une discussion intéressante. Parce que dans le fond, le travailleur qui gagne 50-60 000 par année, on l'impose sur son salaire. Mais l'investisseur passif, qui est multimillionnaire, ben lui, sans travailler, fait de l'argent. Alors son argent, bien qu'il ait le fruit de sacrifices ou d'investissements passés, fait de l'argent sans travailler. Et ça, c'est la dichotomie de notre système fiscal. Plus t'es riche en actifs, moins on te considère riche, mais on te considère investisseur et on t'impose d'une autre façon. Et plus tu es pauvre, plus on t'impose en salaire et donc t'es imposé en fonction de ton revenu annuel et non pas de ton actif. Et ce qui est tordant, pas tordant, mais ce qui est un peu décourageant, puis je veux pas faire semer les mois ce matin, mais selon les données qu'on donne dans l'article de Radio-Canada, les familles les plus riches du pays, les 10% les plus riches, le seuil de richesse, c'est 1,6 million d'actifs. Et je suis tombé en bas de ma chaise, Paul. Parce que 1,6 million d'actifs, ça a l'air beaucoup pour certaines personnes, ça a l'air moins pour d'autres, mais il y a beaucoup de gens qui vont cumuler dans leur ménage 1,6 million d'actifs d'ici la retraite. Beaucoup de monde. Et ça te montre à quel point la richesse réelle au Canada, en nombre de personnes, n'est pas si grand que ça. Ça démontre que, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont un gros train de vie, mais peu d'actifs. Ça démontre qu'il y a beaucoup d'actifs qu'on perçoit comme étant très, très aisés ou très, des gens avec beaucoup d'actifs, mais dans le fond, 1,6 million. Deux couples de professionnels qui gèrent bien leur bille, deux personnes professionnelles qui gèrent bien leur bille, ils vont l'atteindre dans leur vie et vont être considérés dans les 10 % supérieurs. Et qu'est-ce qui rentre là-dedans après ça? Est-ce que le régime de retraite rentre? Oui, comment tu le calcules? T'imagines-tu, là? On commence à imposer les riches à l'héritage. Parfait. Là, ça prend des évaluateurs d'entreprise. Bon, moi, je vais donner cette entreprise-là à mes enfants. Hop, là, attends une minute, quoi? Ben, elle vaut combien? Ben, l'évaluateur dit 8. Ah, moi, elle me dit 6. Là, tu contredis le fisc, tu t'obstines avec. Ça coûterait une fortune dans tout ce qui est placement privé puis trouver les fortunes dans le monde. Alors, ce que je dis ce matin très tranquillement, c'est que c'est beau sur le papier. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Et l'autre affaire, j'envoie un message à la classe ambitieuse. Se sacrifier fiscalement, c'est lorsqu'on fait un sacrifice. Alors, faites un vrai sacrifice. Si tu n'es pas proposé ça, fais comme The Giving Pledge aux États-Unis. Dis que tu vas garder une majorité de ta fortune à ton décès. Là, on jase. En attendant, si on est encore confortable dans le caviar, on s'en reparlera.
Une belle image. Merci, bonne journée.